Le discernement entre ce qui vient de Satan et ce qui vient de Dieu. Parce que souvent, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. On se demande, est-ce que c'est Satan qui permet ça? Ou est-ce que c'est Dieu qui permet ça? Est-ce que les épreuves viennent de Dieu ou est-ce que les épreuves viennent de Satan? Puis c'est là-dessus que le Seigneur m'arrêtait. Qu'il y a des choses dans notre vie, qu'il y a certaines épreuves qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de Satan. Qu'il faut résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Tandis qu'il y a d'autres épreuves qui viennent de Dieu. Et ces épreuves qui viennent de Dieu, il faut se réjouir parce que c'est Dieu qui permet ces choses-là pour nous faire grandir en lui. Mais c'est ça. Je demandais au Seigneur, mais comment on peut différencier ce qui vient de toi, dans lequel on peut se réjouir, puis les autres choses qui viennent de Satan? Parce qu'il y a des choses qui viennent de Satan, qui sont envoyées par Satan, puis on n'a pas à accepter ces choses-là dans nos vies, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Puis le verset que j'avais, c'est Colossiens 1, verset 24, qui dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est à l'Église. » Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ok, je répète, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça m'arrêtait parce que Christ a tout accompli à la croix. Il a pris notre malédiction, il a pris notre péché, il a pris notre mort, il a pris le pouvoir de Satan, il l'a détruit à la croix. Christ a souffert et ça suffit. Ça dit, tout est accompli. C'est assez. C'est comme Christ a pourvu pour tout. Mais ici, ça parle ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair. Donc, il manque encore des choses aux souffrances de Christ. Ce verset-là me... Excusez. Ce verset-là me faisait tousser. Excusez. Ce verset-là m'a fait étouffer. C'est vrai, parce que ça m'a fait étouffer. Non, mais je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Que ces souffrances-là qui manquent à Christ. Parce qu'il dit bien, pour son corps qui est à l'Église. Fait que le Seigneur m'arrêtait là-dessus. Il y a des souffrances qui manquent pour son corps parce que son corps est en progression, est en enfantement. Donc, ça prend encore des souffrances pour continuer l'œuvre que Christ a commencé à la croix. Mais dans le sens, qu'il y a toujours des nouveaux bébés qui arrivent, puis ces nouveaux bébés-là, ben c'est comme des enfants, ça cause une certaine souffrance, parce qu'il faut en prendre soin, il faut changer les couches, il faut les nourrir. Un enfant, ça fait beaucoup de vie dans une maison, ça crée une souffrance pour les parents, une souffrance qui est bonne, qui est bénéfique, qui est de Dieu, c'est une souffrance qui est de Dieu, parce que c'est, mais ça fait partie du plan de Dieu. Mais c'est ça qui parle ici. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Donc, ça rapporte au corps de Christ. Ça rapporte à ce qui manque dans le corps de Christ, puis que Dieu, le Saint-Esprit, veut faire grandir, veut faire progresser en Christ. Il m'arrêtait sur différentes souffrances qu'on peut voir dans la Bible par rapport à certains ministères qu'il y a dans le corps de Christ. Parce qu'il y a différentes souffrances par rapport au ministère que tu reçois dans le Seigneur. Je prenais par exemple le ministère, on pourrait dire, pastoral. S'occuper des brebis, s'occuper des petites brebis, s'occuper des gens qui viennent à l'Église. Dans 2 Corinthiens 11, verset 29, les phrases pastorales de Paul. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Et il dit au verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul était comme un père de famille, comme une mère de famille qui avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis ça créait des soucis. Si quelqu'un était faible, il se sentait lui-même faible. Si quelqu'un tombait, il brûlait. Dans le sens que il prenait tellement à cœur les brebis, les gens de l'Église. Il avait tellement un cœur pour Dieu, pour les brebis, qu'il ne pouvait pas supporter que quelqu'un tombe. Ça le faisait brûler à l'intérieur de lui. C'était comme un feu. C'était une souffrance. C'est une souffrance. Vous savez, c'est quoi pour prendre soin des enfants? Un enfant s'égare, un enfant est rendu loin. Où est-ce qu'il y a mon enfant? Vite, il y a une souffrance intérieure qui se fait parce que tu aimes. C'est une souffrance d'amour. C'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance comme on va voir tantôt. C'est des souffrances par rapport à Satan. C'est pas des souffrances d'amour. Mais les souffrances par rapport à Christ, c'est toujours pour l'amour. C'est toujours par amour. C'est toujours des souffrances qui sont dues parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est des souffrances propres au pasteur, à la fonction de pasteur. Apocalypse 10, verset 10. Des souffrances propres à la fonction prophétique. Parce que pour différentes fonctions, dépendamment de la fonction que tu as dans le corps, eh bien, il y a des souffrances différentes. Apocalypse 10, verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La souffrance due au don prophétique. Ici, c'est comme doux comme du miel, quand tu donnes une prophétie de la part de Dieu, c'est doux comme du miel, mais souvent, après que tu aies donné la prophétie, la parole, une parole qui vient de Dieu, bien souvent, tes entrailles vont être remplies d'amertume, dans le sens que, oui, tu as donné la parole, mais maintenant, il faut que la personne reçoive cette parole-là, puis il faut que la personne retienne cette parole-là, puis qu'elle mette en pratique la parole. Puis ça crée une souffrance à l'intérieur de toi, parce que, en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui a un don de prophétie, tu n'as pas juste le travail de donner la parole, mais tu as aussi à prier pour que la personne reçoive la parole. Lorsque la personne ne reçoit pas la parole, bien, ça crée de la tristesse en toi, ça crée une amertume, parce que c'est sûr que ce n'est pas tous les gens qui vont recevoir la parole. Hein? C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à accepter la bonne nouvelle. Puis ça crée comme une tristesse à l'intérieur de nous. Il y a une joie pour ceux qui acceptent, mais pour ceux qui n'acceptent pas, souvent ça crée comme une tristesse. C'est propre à la fonction de prophétiser. Il dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Puis il dit que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, ce que Dieu nous appelle à faire dans cette fonction-là, pour ceux que Dieu appelle à cette fonction-là de prophète, de prophétiser, ben ça va créer toujours une certaine souffrance à l'intérieur. Comme on voit dans les prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie, Ézéchiel, ils avertissaient le peuple n'obéissait pas. Pas toujours, des fois ils obéissaient, mais la plupart souvent aussi ils n'obéissaient pas. Ça fait que ça crée une souffrance à l'intérieur d'eux. Parce que c'est comme un parent qui reprend son enfant. Si l'enfant obéit, il y a une joie, mais si l'enfant n'obéit pas, ben ça crée une souffrance, parce que là, il sait qu'il va avoir une correction qui s'en vient après, parce que Dieu est amour. Puis lorsqu'un prophète prend la peine d'avertir quelqu'un, si la personne n'obéit pas, ben c'est sûr qu'il va avoir un châtiment, une correction par rapport à ça, parce que dans l'amour, il y a aussi la correction. La correction, ça fait partie de l'amour. Dieu est amour, mais parce qu'il aime, Dieu aussi nous corrige si on fait un pas mauvais, si on prend un détour de sa parole, si on se détourne de ses voies. Dieu va nous ramener. Il va prendre comme un bon berger la houlette et le bâton. Il va nous ramener à lui. Mais ça crée une souffrance. Puis ceux qui sont chargés d'avertir le peuple de Dieu, comme une fonction prophétique, eh bien, souvent, il y a comme une amertume qui se crée dans le cœur. La fonction apostolique, 2 Timothée 2,6. Il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Être apôtre, faire la fonction apostolique, il faut que tu commences à labourer le terrain. Il faut que tu commences à semer. Il faut que tu commences là où il n'y a absolument rien. Tu fais comme l'agriculteur qui commence à labourer son champ avant de semer. Il faut qu'il laboure son champ. Il faut qu'il ouvre la terre. Puis Dieu sait qu'ouvrir la terre, ça demande un gros effort. Ça demande, c'est un travail dur, c'est un travail pénible. C'est très difficile. Avant, on prenait des chevaux pour labourer les terrains, mais c'était très difficile. C'est un travail de plusieurs, c'était ça. C'était commencer par le commencement, comme la fonction apostolique, c'est d'ouvrir le chemin, de préparer les gens à recevoir la bonne nouvelle. C'est beaucoup. Celui qui sème avec l'âme va récolter avec des champs d'allégresse. Ça parle de semer, de préparer le terrain. Puis ça se fait avec des larmes aussi. Puis c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, le laboureur qui peine, c'est-à-dire qui travaille fort, qui a une souffrance dans son travail, doit être le premier à recueillir les fruits. C'est une fonction, c'est le côté apostolique. J'ai aidé dernièrement un frère dans le Seigneur à bâtir une sorte de rallonge à une maison. Mais l'étape la plus difficile, c'est toujours de faire la fondation, de commencer, de ce qu'on appelle couler le ciment. C'est l'étape la plus difficile. C'est tellement dur que les deux jours que j'étais là, j'étais complètement épuisé. Ça m'a complètement épuisé parce que c'est tellement dur de pousser le ciment puis égaliser ça. On était à bout de force. À un moment donné, j'en pouvais plus. C'est tout le temps des efforts soutenus de toutes tes forces. Il faut que tu forces sans arrêt au bout, complètement au bout de tes forces, pendant 4 heures de temps. Puis quand tu finis, t'es épuisé, t'es complètement épuisé. Mais c'est une souffrance. Mais quand tu le fais dans la fonction apostolique, c'est toujours bénéfique. Parce que tu récoltes le fruit de ton travail. En Christ, toute souffrance amène de la gloire. Comme ça dit, celui qui souffre, la souffrance précède la gloire. Celui qui souffre en Christ, bien, il va avoir une gloire qui s'ensuit. C'est d'entrer dans ce que Dieu a pour nous autres et d'accepter que sur nous aussi, avec la grâce de croire, il y a aussi la grâce de souffrir avec Christ. Il y a une grâce que Dieu veut déverser avec nous. Il y en a beaucoup qui veulent avoir une fonction, une place dans le corps de Christ. Mais il faut se rendre compte que si on demande une place dans le corps de Christ, puis Dieu a une place pour chacun de nous, bien, il va y avoir une souffrance qui va venir avec cette place-là, qui va être différente d'une personne à l'autre. Mais c'est normal, parce que le service de Christ, le service des uns et des autres, bien, il faut prendre une attitude de serviteur, et il faut être prêt à souffrir. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une joie. Parce qu'il y a toujours une récompense, il y a toujours un fruit qui s'ensuit. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est les souffrances de Christ. C'est comme si Christ a porté plein de choses à la croix, il a porté toute notre malédiction, mais il y a certaines choses par rapport au corps de Christ qui restent à faire. Puis là, c'est notre part avec lui, de bâtir avec lui. Les souffrances d'évangélisation, 2 Corinthiens 12, 10. Les souffrances d'évangélistes. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul parle que quand il avait été annoncé l'Évangile aux Corinthiens, ça dit que c'est dans une grande faiblesse qu'il est allé leur annoncer l'Évangile. En s'appuyant pas sur la sagesse du langage, mais en s'appuyant sur la puissance de Christ. Mais il dit, la puissance de Christ repose sur lui lorsque il passe des faiblesses, des outrages, lorsqu'il se fait outrager pour le nom de Jésus, des calamités lorsqu'il se fait persécuter pour le nom de Jésus, des détresses. C'est toutes des souffrances qui sont en rapport à la fonction d'évangélisation. Quand tu évangélises, il y a des gens qui vont accepter, puis il y a d'autres gens qui vont te persécuter, qui vont te haïr. Tu vas être une bonne odeur pour ceux qui vont croire, mais tu vas être une mauvaise odeur pour ceux qui ne croiront pas, comme l'apôtre Paul dit. Mais ça, c'est normal, il faut s'attendre à ça. Ça fait partie de la fonction que Dieu nous donne. Mais en même temps, comme il dit au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Au verset 9 du même chapitre, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu nous accompagne dans ces instants-là. L'apôtre Pierre va dire, « Si vous souffrez pour Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire repose sur vous. » Donc, il y a puissance de Dieu, une gloire qui se manifeste quand on souffre avec lui et pour Christ. Il y a toujours comme quelque chose de glorieux qui se manifeste. Une présence glorieuse, la présence glorieuse de Christ, la puissance de Christ se manifeste dans ces périodes-là, dans ces temps-là. C'est tellement merveilleux que tu oublies vite la petite souffrance dans laquelle tu passes. La souffrance, comme l'apôtre Paul dit, ça devient comme le poids éternel de gloire qui s'ensuit du peu de souffrance que tu as à vivre présentement. Il dit qu'il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible entre la souffrance présente et la gloire qui s'en vient. Il n'y a aucune comparaison, l'apôtre Paul dit. Parce que c'est une joie glorieuse que ça. Le résultat va être une joie glorieuse. C'est comme les parents qui élèvent leurs enfants. Oui, il y a une certaine souffrance, mais si les enfants sont bien élevés, ça va amener une grande joie. Ça va amener une source de satisfaction continuelle dans le cœur des parents parce qu'ils auront élevé leurs enfants. La souffrance de ceux qui enseignent la parole, les docteurs. Jacques, chapitre 3. Jacques. Chapitre 3, verset 1. Il dit, « Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. » Ça, c'est la souffrance de ceux qui enseignent la parole. C'est que quand tu enseignes la parole, il faut que tu t'attendes à ce que tu sois jugé plus sévèrement. Parce que si tu donnes la parole, tu dois être à la hauteur de la parole que tu amènes. Puis ça demande toujours de la. C'est toujours. Ça crée toujours une souffrance à l'intérieur de toi parce que c'est comme. Tu sais que si tu ne mets pas en pratique la parole d'abord toi-même, tu ne peux pas l'enseigner. Ça fait que c'est comme quelque chose qui vient constamment plus exigeant sur toi que sur les personnes à qui tu enseignes. La parole est plus exigeante pour toi-même que pour ceux à qui tu enseignes. Parce que c'est. Il dit. Si un homme est parfait en parole, il est capable de tenir tout son corps en bride. Mais il dit bien, nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc, c'est comme si on demande à celui qui enseigne la perfection. Puis, étant donné que la perfection n'est pas possible ici-bas, ben c'est difficile. C'est difficile d'être toujours parfait, d'être toujours à la hauteur du meilleur, de donner toujours le meilleur. Ça demande toujours une exigence continuelle. Ça amène une souffrance aussi. Ça amène des heures et des heures de préparation parce que pour enseigner, il faut étudier. Puis ça dit que l'étude, ben c'est beaucoup de peine, ça dit ça dans Ecclésiaste. Ben pour enseigner, ben tu passes beaucoup, beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour recevoir ce que Dieu veut donner. Puis ça aussi, ça amène comme une souffrance. Mais toutes ces choses-là, c'est toujours bénéfique parce que ça fait partie de la souffrance que Christ continue à avoir pour son corps. Parce que lui, il voit chaque brebis, il voit chaque personne, il voit chaque personne qui est à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église. Il les voit, puis déjà, il les porte dans son cœur et il souffre déjà pour ces personnes-là. C'est quand il nous donne une fonction, il nous donne de partager ses souffrances présentes pour son corps. Mais il faut bien faire la différence entre ces souffrances-là qui sont présentes, qui viennent de Dieu, et les souffrances qui viennent de Satan et que Christ a porté à la croix. Parce que Christ à la croix, il a porté toutes les souffrances qui viennent de Satan. La souffrance qui vient de Satan, la malédiction, la maladie, la mort. Toutes les maladies de l'âme, on voit dans Deutéronome 29 que ça parle des malédictions qui vont venir pour ceux qui désobéissent à Dieu. Ça dit, tu vas avoir un âme troublée, plein de crainte, plein d'effroi. Toutes ces choses-là, Christ a porté à la croix ces choses-là. Tout ce qui a rapport au péché et au pouvoir de Satan, Christ a porté ces choses-là à la croix. C'est qu'on n'a pas à souffrir à cause de ces choses-là. Comme l'apôtre Pierre dit, il dit que personne ne souffre parce qu'il est un malfaiteur ou qu'il est un brigand ou quoi que ce soit. Il dit ça. Si vous êtes plus supposé en tant que chrétien de souffrir pour ça, parce que Christ a porté votre péché, il a porté votre malédiction, il a porté toutes ces choses-là à la croix. Ça dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus-Christ a donné la vie. Il est venu, ça dit, dans 1 Jean 3,8, qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'était trois choses. Dérober, ça veut dire voler. Quand tu voles quelqu'un, tu appauvris cette personne-là. Ça veut dire que le diable, sa mission première, c'est de nous appauvrir à tous les niveaux de notre vie. Au niveau physique, au niveau financier, au niveau spirituel, il vient nous voler. Toutes les choses que Dieu nous avait données, mais à cause du péché, on avait été traînés à côté de Dieu, eh bien, Christ est venu, il a porté toute la malédiction du péché, tout ce que le diable nous a volé, Jésus-Christ l'a subi à la croix pour nous donner la bénédiction. Parce que ça dit en Jésus-Christ, il a été fait malédiction afin que nous devenions bénédiction en lui. Toute malédiction, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. La malédiction ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Christ a porté ces choses-là à la croix. Quand Jésus a été devant la femme qui était liée par Satan depuis 19 ans, on voit cette histoire-là dans Luc, chapitre 13, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et Satan tenait liée cette femme-là. Cette femme était infirme. Elle ne pouvait plus marcher depuis 18 ans. Jésus n'a pas dit, cette femme-là avait cette maladie-là pour la gloire de Dieu. Non. La maladie, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. La maladie, ça vient du diable et ça fait partie des malédictions que le diable a envoyées sur ceux qui pêchent. Parce que ça dit bien, si on lit l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu s'est manifesté comme l'Éternel qui guérit. Puis il va dire, si tu obéis à la loi, je ne te frapperai d'aucune de ces malédictions. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, si tu obéis à la loi. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais Christ est venu, il a pris sur lui toute la malédiction qui était due au fait qu'on n'obéissait pas à la loi, c'est-à-dire la malédiction du péché, il a tout pris. Donc la maladie, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, l'apôtre Pierre dit. C'est un fait accompli. Fait que je n'ai pas à souffrir d'une maladie qui vient du diable. Parce que Jésus a dit, cette fille que Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus est venu, puis il a détruit les œuvres du diable. L'œuvre du diable, c'était de détruire sa femme-là. C'était de dérober à cette femme-là la santé. C'était de détruire sa santé, sa vie complète. La tenir liée sur une chaise, sur un grabat pour le restant de ses jours. Mais Christ est venu et lui, il guérissait les gens. Il délivrait ces gens-là de la souffrance. Cette femme-là souffrait sur son lit. Mais ce n'était pas une souffrance de Dieu. C'est une souffrance qui venait du diable. Puis en tant que croyant, il faut savoir que Christ a vaincu cette maladie-là à la croix. Il a vaincu la malédiction. J'ai pu apporter ces choses-là que Christ les a portées à la croix. Ce n'est pas ces souffrances-là. Quand l'apôtre Paul parle de la communion de ces souffrances, il ne parle pas de devenir malade puis de dire « Ah, je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu, puis j'ai à supporter la maladie. » Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul parle. Il parle d'une souffrance pour la gloire de Dieu, pour son corps qui est l'Église, pour l'enfantement de son corps. Mais la souffrance qui naît de Satan, Christ l'a portée à la croix. Puis j'ai un droit là-dessus. J'ai un droit parce que Christ a souffert. Ça suffit. Je n'ai pas à souffrir ce que Christ, la cause pour laquelle Christ est mort à la croix. Il est mort pour enlever la racine du péché, puis il est mort pour enlever les conséquences du péché dans ma vie. Puis ça dit qu'à la croix, il a traîné le diable derrière lui sur son cortège de victoire. Il l'a dépouillé. S'il a dépouillé le diable, ça veut dire quoi? Le diable venait nous voler nos richesses. Il venait nous voler tout ce qu'on avait. Il nous a volé. Mais si Christ a dépouillé le diable, ça veut dire qu'il a repris les richesses que le diable nous avait volées pour nous les redonner. Pour nous donner ces dépouilles. On voit ça dans l'histoire d'Esther. Quand Haman, le méchant, a été pendu sur la potence, qu'est-ce qui est arrivé après? Ça dit que Esther et Mardochée ont dépouillé la maison de Haman. Ils ont pris toutes les richesses qu'il y avait dans la maison de Haman, puis le roi, qui était Christ, qui symbolisait Christ, le roi leur a donné toutes les dépouilles. Toute la maison d'Haman et toutes les dépouilles d'Haman, les richesses qu'Haman avait volées. Mais Haman, c'est le symbole de Satan. Quand Christ est allé à la croix, il y est allé pour dépouiller le diable. Mais s'il dépouille le diable, c'est nous autres qui nous avons volé. Il nous avait volé notre santé, il nous avait volé notre prospérité, il nous avait volé notre relation avec Dieu. Premièrement, la plus grande des choses, c'est notre relation avec Dieu. Notre justice devant lui. On n'avait plus de justice devant lui. À cause du sang de l'agneau, il nous revêt de sa justice. Et on a une relation à nouveau établie avec lui. Mais c'est ça que Christ vient nous redonner, les dépouilles de Satan. Puis quand ces choses-là sont devant nous, on n'a pas à supporter ça. On peut réclamer. Christ a accompli ces choses-là. C'est assez. Christ a suffi. Christ a suffi pour enlever la malédiction. Donc, je peux réclamer la bénédiction. Pourquoi qu'on prie ici? C'est justement pour que la bénédiction de Christ, qui était accomplie à la croix, se répandre autour de nous autres. Parce qu'on voit encore plein de gens, de chrétiens malades, on voit plein de chrétiens pris de toutes sortes de fardeaux, de toutes sortes d'esclavages qui sont des fois spirituels, qui sont des fois mentales. Moi-même, j'ai vu plein de chrétiens avoir des maladies mentales, pogner des maladies mentales. Mais toutes ces choses-là, ça faisait partie de la malédiction. Donc, Christ a payé pour ça. Donc, s'il a payé pour ça, il a racheté notre santé, il a racheté notre vie en abondance à tous les niveaux. Il y a comme un manque. Il faut qu'on retrouve cette bénédiction-là qui est en Christ. On y croit. Qu'on y croit. Qu'on n'accepte pas ce qui vient du diable. Ça vient du diable. On n'a pas besoin d'accepter ça. On peut réclamer nos droits. Parce qu'on a des droits en Jésus-Christ. On a un héritage en Jésus-Christ. Donc, on a le droit de réclamer cet héritage-là. Puis Dieu ne nous en voudra pas. Si moi, je réclame cet héritage-là. Si je dis, Seigneur, par tes maîtresses, je suis guéri, Dieu ne nous en voudra pas. Au contraire, il va être content qu'on réclame cela, puis qu'on se tienne sur la parole, qu'on dise, Seigneur, il est mort pour ça, donc je n'ai pas apporté ces choses-là. Mais d'un autre part, comme j'expliquais, il y a les souffrances de Christ, les souffrances qui viennent de Dieu, qui sont pour l'enfantement de son corps. Ça, ces souffrances-là, eux autres, j'ai à me soumettre à ces souffrances-là. J'ai accepté la grâce de souffrir avec Christ. Parce que ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, ce sont des choses qui vont être bénéfiques. Ce sont des épreuves qui sont bénéfiques. Les autres genres d'épreuves que Satan avait envoyées, la malédiction, la mort, la maladie, toutes ces choses-là, je n'ai pas accepté ça. Je peux réclamer mes droits parce que j'ai un héritage glorieux, puis je peux déclarer ces choses-là par la foi. Je peux m'asseoir là-dessus et savoir que si Christ a payé pour ça, je n'ai pas besoin de supporter ces choses-là. J'ai un droit devant Dieu. Puis Dieu, ça dit, tendra-t-il à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Non, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu toujours sait nous faire justice de Satan qui veut essayer de nous dépouiller. Dieu sait nous faire justice au bon temps. On n'a pas à... En son temps. On n'a pas à craindre. Dieu a un plan merveilleux. Puis dans son œuvre à la croix, il y a autant aussi pour nous de nous donner toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Et dans ces bénédictions-là, il y a une grâce aussi de souffrir. Parce que pour regarder, quand c'est une souffrance pour Christ, il faut regarder ça comme une bénédiction. Parce que ça fait partie du plan de bonheur que Dieu a pour nous autres. Ça fait partie de ça. C'est une bénédiction. Cette souffrance-là, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un malheur, c'est une bénédiction. Ça fait qu'il faut simplement recevoir la grâce, parce que c'est une grâce. C'est pas quelque chose que... Aujourd'hui, je décide que je vais souffrir pour... c'est pas ça, c'est parce que je reçois son esprit, puis parce que son esprit me dirige dans la fonction qu'il a préparée pour moi, il m'entraîne à sa suite. Puis là, à sa suite, ben, il y a une croix. Il dit, viens, celui-ci, si quelqu'un veut venir après moi, ben, qu'il porte sa croix. Il y a une croix... qui est le renoncement à soi-même, renoncer à tout ce qui est personnel pour recevoir sa souffrance à lui. Parce qu'il faut bien aussi faire la différence. Des fois, il y a des chrétiens qui peuvent souffrir encore parce, à cause de leur péché, parce que comme l'apôtre Pierre dit, si tu voles, ben c'est normal que tu vas être châtié par les autorités. Si les autorités te surprennent en train de voler, ben là... Surprends-toi pas que tu aies un châtiment et que tu aies des souffrances par rapport au fait que tu aies volé. Parce que c'est comme ça. Mais c'est ça. Dans la vie chrétienne, ces choses-là, ce que Christ a accompli à la croix, il faut être conscient, il faut réaliser notre héritage. Il faut prendre conscience de l'héritage que Christ a accompli à la croix, puis ne plus se laisser berner par le diable. Parce que ça dit bien, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résister au diable, parce qu'il va venir. Il va toujours essayer de se faufiler puis de dire, de nous accuser, de nous condamner ou de mettre des fardeaux sur nous qui ne sont pas de Dieu.
Comme si on les méritait.
Parce qu'il y a plein de fardeaux, que des soucis que le diable met sur notre vie, puis c'est pas de Dieu. C'est mauvais, c'est des soucis du monde, c'est des soucis de ci, c'est des soucis de ça, mais c'est pas ces soucis-là que Dieu veut pour nous autres. Les seuls bons soucis, c'est les soucis qui viennent de Christ, les soucis de l'Église, les soucis du corps de Christ, des uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les fardeaux qu'il y a autour de nous autres dans le corps de Christ, ben, c'est ces soucis-là qui sont bons parce que c'est ce que l'Esprit est en train de faire. S'il y a un souci dans le corps de Christ, l'Esprit, on peut être sûr que l'Esprit est en train de veiller et d'emmener une solution dans cette place-là. Parce que l'Esprit prend soin de chaque enfant de Dieu. Il sait conduire chaque enfant de Dieu à la place que lui nous a destinée. Amen. Mm-hmm.